Léa Salamé, votre invité ce matin est un célèbre pédiatre iconoclaste.
Oui, iconoclaste. Bonjour Aldo Naouri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plus
c'est
de
moi qui vous remercie.
40 ans. Cela fait plus de 40 ans que vous bousculez les esprits et la pédiatrie en défendant l'autorité des pères contre la tyrannie des mères. Après avoir écouté des milliers de patients dans votre cabinet, après avoir écrit des tas de livres sur les filles, les mères, les pères, les fils, les belles-mères, pourquoi aviez-vous besoin d'écrire dans ce livre-là, des bouts d'existence qui sort chez Odile Jacob, votre vie à vous, votre famille à vous?
Je n'ai pas eu besoin. C'est une histoire tout à fait étrange parce que généralement tous les autres livres que j'ai écrits sont des livres qui se sont écrits par moi. Celui-ci a été une commande de mes enfants.
Ah.
Et tout à fait étonnante, et j'ai résisté pendant près de 18 mois avant de les satisfaire. C'est eux qui m'ont demandé d'écrire tout cela.
Pourquoi ?
Ils ne se sont pas expliqués. Ils m'ont dit que il fallait impérativement que je le fasse. Et ils m'ont demandé de raconter les histoires que je racontais quand ils étaient petits, ce à quoi je répugnais pour une raison simple, c'est que, effectivement, je leur ai beaucoup raconté des histoires de mon enfance pour simplement les préparer à ce que c'est qu'une vie, dans la mesure où je pouvais donner une exemplarité. Eh bien, figurez-vous que quand je me suis mis à écrire cela, je me suis dit, au fond, j'ai été sacré comme spécialiste des relations intrafamiliales, et en même temps, j'ai été crédité d'un don de conteur, d'accord ? Mmh. Et je me suis dit, bon, au fond, là, on me demande des comptes, en quelque sorte, des comptes de relations intrafamiliales, et ce sont les miennes. Ah. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'ai joué le jeu et me suis lancé là-dedans en expliquant précisément que l'ensemble des souvenirs que j'évoque ne sont jamais ni plus ni moins que des souvenirs écrans, ce qui m'a permis éventuellement d'expliquer ce que sont les souvenirs écrans et la façon dont ils s'inscrivent en nous.
Alors vous avez un parcours incroyable, vous êtes né en Libye il y a un peu plus de 80 ans, la Libye que vous quittez à l'âge de 5 ans pour l'Algérie française avant de débarquer en France pour faire vos études de médecine. Oui. Vous êtes le 10e enfant de vos parents et votre père meurt alors que votre mère est enceinte de vous.
Oui.
Vous dites d'ailleurs dans le livre « Je suis un fils posthume ». En quoi le fait d'avoir été un fils posthume a été déterminant dans la construction de votre pensée théorique ?
Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, le fait d'avoir été fils posthume aurait pu laisser croire que je n'aurais pas eu de père, alors que j'en ai eu un énorme qui passait. Et c'est bien là ce qui se passait. Nous étions une famille dans laquelle il n'y avait pas de père physique, mais il y avait un père d'une présence extraordinaire.
Puisque ma mère, votre mère, voilà, on parlait tout le temps.
Il était porté par le discours de la mère. Mmh. Et cette mère, si vous voulez, se sentant portée par cet appui qu'elle prenait sur cet individu pourtant décédé, avait une autorité et une faculté d'exercice de cette autorité qui était tout à fait exceptionnelle et surtout un mode d'éducation prodigieux.
Alors c'est ce que vous racontez.
Voilà.
Elle était une mère orientale, puisque c'était une juive libyenne.
Non, une libyenne juive,
une
qui
libyenne
n'est pas la
juive,
même chose.
Vous avez raison, à la fois très aimante et très autoritaire.
Oui.
Est-ce que c'est de là que vous avez développé votre théorie sur la tyrannie des mères ?
Pas du tout. Ah. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que justement, elle n'était pas tyrannique, elle était extraordinairement aimante, mais jamais tyrannique. Et d'ailleurs, comme elle était un peu perdue avec cette nombreuse famille, elle avait délégué à l'aîné le pouvoir sur tous les autres, au deuxième le pouvoir sur tous les autres, sauf sur l'aîné, d'accord ? Et moi, je suis le dernier, tout le monde avait pouvoir sur moi, je n'avais pouvoir sur personne, d'accord ? Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, au fond, j'aurais été élevé par un ensemble d'individus qui m'ont porté.
C'était
c'est en cela, si vous voulez, que j'insiste infiniment sur l'importance de la famille comme école du lien social.
C'était une bonne mère, votre mère ?
Extraordinaire, extraordinaire. Et je veux dire que jusqu'à sa mort, nous étions tous après elle à venir lui demander des tas de choses qui se passaient quand on était petits. Je raconte dans mon ouvrage qu'elle avait une façon de nous soigner quand nous étions enfants, où elle venait et elle nous léchait le front en crachant à gauche puis à droite et elle disait je te lèche comme la chèvre lèche son chevreau, comme la chatte lèche son chaton, etc. Eh bien, figurez-vous que adulte, quand nous étions déprimés, on allait la voir, maman, lâche-moi.
Vous dites, ce livre est un plaidoyer pour le refoulement sans lequel on ne peut faire société. Le refoulement, c'est ce comportement qui est condamné, qui est banni depuis mai 68. On répète tout le temps, tous les jours, il ne faut pas refouler, il faut tout dire. Et vous, vous dites le contraire, il faut refouler.
Il est fondamental. Toute l'éducation, précisément, consiste à faire refouler à l'enfant des pulsions qui le traversent et qu'il ne peut pas contrôler. Et justement, dans la mesure où il refoule, il sublime l'énergie de ses pulsions pour faire autre chose. Et ce refoulement est d'une importance tellement considérable que s'il n'y a pas de refoulement, il est impossible d'avoir du lien social.
Mais vous entendez combien vous êtes à contre-temps de dire il faut refouler.
Ah mais ça m'est complètement égal.
Non mais je sais bien, mais vous comprenez.
Au contraire, je le hurlerai de plus en plus. Oui. Vous voyez ? Et précisément, dans le travail que j'accomplissais, à partir du moment où je faisais comprendre l'importance du refoulement, les troubles des enfants disparaissaient. Parce que le parent poser son autorité en disant il n'est pas question que tu ailles plus loin. C'est poser des limites qui, en définitive, si vous voulez, pour prendre le langage des psychiatres et des psychanalystes, c'est donner un contenant à l'enfant. C'est-à-dire poser précisément, justement, l'interdiction de dépasser les limites.
L'autorité
voilà.
Du père.
Et à ce moment-là, l'enfant n'a pas d'autre choix que de refouler. Voilà. Et c'est extrêmement important.
Hier, dans le cadre du grand débat national qui est organisé, le secrétaire d'État à l'enfance a organisé un grand débat national avec des enfants de 7 à 14 ans en disant, pour que les adultes réfléchissent, il faut prendre en compte la parole des enfants.
Je trouve ça démagogique. Pour une raison simple, c'est que prendre en compte la parole des enfants, encore faut-il entendre cette parole des enfants. Le problème du langage, c'est cela. C'est qu'en définitive, on peut tout lui faire dire. Et si on le prend au comptant, on n'y comprend toujours rien. Et c'est bien là où précisément une formation analytique, par exemple celle que j'ai accomplie personnellement pour pouvoir éventuellement travailler comme j'ai travaillé, apporte cela. Parce que, en définitive, l'enfant dit... Je ne suis pas en train de dire que ce que dit l'enfant n'a aucune importance. Au contraire, ça a une très grande importance. Mais encore faut-il l'entendre, parce que le codage du langage de l'enfant est totalement différent du langage habituel.
Donc la question, c'est pas de l'entendre, c'est de le comprendre, c'est ce que
voilà.
Vous dites. Vous racontez dans ce livre que quand on est un exilé, ce qui est votre cas, un exilé en plus dans une famille nécessiteuse et humilié sans relâche dans sa dignité, écrivez-vous, et qu'on arrive en France, on n'a que deux choix pour y arriver, la revanche ou la vengeance.
Oui.
Quelle est la différence entre les deux ?
Tout à fait importante, extrêmement importante, et prodigieusement d'actualité. Pour une raison simple, c'est que on arrive en tant qu'exilé. J'ai été un exilé en France avec une nationalité française, parce que on m'a chassé de Libye parce que nous étions français. D'accord. Oui. Nous sommes arrivés dans un endroit, mais comme nous étions dans un pays depuis plusieurs générations, on avait à la France, de la France que la nationalité. Il a fallu apprendre la langue, il a fallu apprendre la langue française, la langue de l'arabe algérien qui était différente de l'arabe libyen. Et avec cela, si vous voulez, on avait d'énormes difficultés. Mais nous savions qu'il n'était absolument pas impossible de ne pas s'intégrer. Il fallait impérativement s'intégrer. Je raconte dans cet ouvrage toutes les étapes de cette intégration, dans la mesure où on nous demande de changer de prénom, etc., etc.
Vous racontez, vous dites oui à l'intégration, non à l'assimilation.
Non, je dis l'intégration, on a obéi, on s'est intégré. Et je dis, regardez, moi, je suis parfaitement intégré, mais je suis pas assimilé. Pour une raison simple, c'est que précisément, les traces laissées par mon enfance n'ont pas disparu. Et elles restent encore extrêmement vivantes. À partir de là, à partir du moment où je suis intégré, j'ai deux choix. Ou bien je suis furieux et tellement narcisse moi-même que de toutes les façons, je vais me venger de toute cette pression qui a été faite sur moi pour être intégré. Et je vais me venger, cette vengeance va passer par des processus qui vont tout casser, ou bien alors je vais prendre ma revanche et m'intégrer dans le tissu et aller dans le sens de ce tissu et apporter au milieu dans lequel je m'intègre le meilleur que je puisse faire.
Et c'est ce que vous avez fait, vous avez pris votre revanche et vous ne vous êtes pas vengé. C'est tout ça qu'on peut lire dans votre livre, Des bouts d'existence. Merci Aldo Naouri. Un livre à contre-temps, parfois, de ce qu'on entend, comme vos théories, mais ça nous aide à réfléchir. Merci et belle journée à vous.
Merci à vous.
Merci Léa et à tout à l'heure, 8h20.